Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Merci de prendre place. Les petits et les grands. Bienvenue pour ce culte, que vous soyez ici ou à la maison. Quelques annonces avant de commencer ce culte. Comme toujours, le café est offert à la fin. Donc, si vous êtes peut-être ici pour la première fois, sachez que vous êtes le bienvenu pour discuter un petit peu avec les uns et les autres et puis boire un café ou un thé. Le programme de l'Église pour mai-juin est à disposition. Donc certains, vous l'avez peut-être déjà reçu par email et sinon, il sera à disposition dans le hall aussi à la sortie. Il y a aussi le nouveau potager qui est sorti pour les jeunes. Donc voilà, il sera distribué dans le cadre des potes, mais il y en a quelques-uns en plus toujours. Donc si voilà, vous connaissez quelqu'un peut-être à qui vous pourriez le donner, je pense que c'est possible. Adressez-vous à Eleonore ou à Joanne pour ça.
Est-ce qu'il y a une blague dans le nouveau potager ?
Il y a toujours des blagues dans le nouveau potager. Je ne vais pas la lire maintenant, mais je suis sûr qu'il y en a. Oui, oui. Mardi 16 mai, il y aura deux choses. Il y aura tout d'abord la rencontre du conseil à 19h. Donc on vous invite à prier pour ce temps. On remercie nos conseillers pour tout le travail qu'ils font. Il y a toujours une liste trop grande de choses à discuter. Et c'est, voilà, c'est vraiment un investissement en temps. Donc merci pour ce travail et merci de prier pour eux, pour qu'ils soient guidés et qu'ils reçoivent de la sagesse pour tout ce qu'ils ont à faire. Le même soir, il y aura aussi la rencontre de prière communautaire dans ces locaux ici, je crois. C'est juste ? Oui ? Ok. Donc voilà, vous êtes aussi tous les bienvenus pour ce temps de prière. Mercredi soir, chaque mercredi, le CTT, Chrétien Tout Terrain, le groupe de jeunes qui se réunit également. Là aussi, si vous avez peut-être des jeunes qui n'y participent pas encore, n'hésitez pas à leur en parler ou à venir voir l'équipe qui s'occupe de ce groupe. Pour plus d'informations, il lève la main par là-bas. Merci. Sachez également que le dimanche 25 juin, nous aurons un culte avec des baptêmes. Donc, il y a déjà deux personnes qui ont demandé à se faire baptiser, qui voilà, ont commencé ce processus avec les pasteurs. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez de nouveau s'intéresse à cela, aimerait passer par les eaux du baptême, s'il y a peut-être des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à vous approcher des pasteurs, du conseil pour en parler et puis peut-être aussi participer à cette journée-là. En tout cas, venez nombreux pour fêter cet événement avec les baptisés qui seront présents. Et puis, une autre annonce que vous connaissez bien, vous savez que notre Église vit des dons qu'elle reçoit. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, merci d'avance pour votre générosité, soit en déposant quelque chose à la sortie, soit par tous les moyens modernes que vous connaissez déjà. Voilà, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial. Les enfants, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est comme jour aujourd'hui ?
C'est la fête des mères,
bravo. Tout le monde le savait ou bien est-ce qu'il y en a qui étaient passés à côté de l'info ? Les enfants, en général, ils le savent bien. Moi, je ferais partie des personnes qui pourraient éventuellement passer à côté, mais là, ça va, aujourd'hui, vu que j'étais président du culte, j'ai reçu l'info. Donc aujourd'hui, on va fêter les mamans. Tout d'abord, on veut penser à nos mamans, à nous. Moi, je viens d'envoyer un message à ma maman avant d'oublier. On a tous une maman, qu'elle soit biologique ou que ce soit une maman qui nous est adoptée, on a tous une maman. Et puis, on veut penser à elle aujourd'hui, en particulier. On veut aussi penser à toutes les mamans autour de nous, dans notre famille élargie. Alors parfois, on a des filles qui sont devenues mamans à leur tour. On a des voisines, on a des gens dans notre communauté, des collègues. Il y a beaucoup de mamans autour de nous. Et on veut aussi penser à elles aujourd'hui. On pense à celles qui ont eu la joie de devenir maman et à celles qui auraient voulu être maman ou qui désirent être maman et pour qui ce n'est pas encore possible. On pense à celles qui vivent des moments de joie en étant maman, on pense aussi à celles qui ont des défis dans le cadre de la maternité ou du fait d'être maman. On sait qu'il y a beaucoup de mamans qui sont seules aujourd'hui, il peut y avoir des enfants malades, il peut y avoir des situations de vie qui font qu'être maman, ce n'est pas forcément toujours une joie. Il y a beaucoup de joie et il y a aussi de la peine qui accompagne le fait d'être maman. Et on veut penser à tout ça aujourd'hui alors qu'on vit ce culte et alors qu'on prie aussi pour ça à la fin du culte. Tout à l'heure, nous entendrons quatre témoignages de mamans de quatre générations différentes. Alors, ce n'est pas tout à fait des générations, mais voilà. Quatre mamans dans des stades de vie différents dans le cadre de ce qu'elles vivent en tant que maman. Alors, on se réjouit d'entendre ça. Ça sera un petit éventail de voilà, ce que ça veut dire être maman aujourd'hui pour ces dames. On se réjouit d'entendre ce qu'elles ont à dire. Et puis nous aurons la prédication de Philippe sur le thème de l'amour d'une maman. Et puis enfin, je me suis perdu dans mes notes, pardon. Voilà, et puis comme je l'ai dit avant, on aura un temps de prière où on priera en réponse à ce qu'on a entendu de Philippe, mais on priera aussi spécifiquement pour les mamans. Donc voilà, retenez ce que je vous ai dit, retenez ce que vous allez entendre des témoignages, retenez le message, et puis ensuite on va porter tout ça dans la prière devant Dieu. Donc il faudra être attentif tout du long. Voilà, donc on est là aujourd'hui pour les mamans, mais on est aussi et surtout là pour Dieu. Et nous aimerions tourner nos cœurs, nos pensées vers lui. C'est pour ça qu'on est là ce matin, réunis. Et on va commencer par un temps de louange, de chant. C'est le groupe que je remercie d'avance qui va nous conduire dans ces chants. Et je vous invite à voilà, vraiment tourner vos cœurs vers Dieu pour le louer, pour le remercier pour qui il est dans nos vies. Merci beaucoup. Alors voilà, les enfants, c'est le temps de descendre dans vos groupes. On vous bénit. Passez un bon temps. Je sais qu'il y aura des répétitions de chorale, toutes sortes de choses qui vont se passer ce matin. Alors les lucioles, prenez vos vestes ou vos manteaux si vous en avez. Merci à toute l'équipe qui s'occupe de ces enfants, c'est très précieux. Et puis j'aimerais appeler nos quatre dames qui vont témoigner. Ou alors, si vous n'êtes pas trop loin, vous pouvez rester assises, mais rapprochez-vous si vous êtes au fond de la salle. Voilà, on se réjouit d'entendre ce que vous avez à dire. On va commencer par Marie-Léa, qui a un petit. Alors on verra, ça va, t'arrives à venir sans. Voilà, merci beaucoup.
Bonjour à tous. Je suis un peu moins grande que toi. Donc, comme certains le savent, je suis devenue maman pour la première fois le 17 octobre dernier du petit Adrien. Donc, vous l'entendez souvent rire et parfois grogner pendant les cultes. J'ai souvent entendu, moi, que Dieu nous aimait comme un père aime ses enfants. Et je pensais savoir ce que c'était que l'amour. Ça va être mon ressenti, hein. On est d'accord. J'aime mes parents, j'aime mes frères et sœurs, j'ai aimé mes neveux et nièces quand je les ai pris dans les bras enfant, et j'aime mon mari. Mais j'aurais jamais pu imaginer l'amour que je ressentirais pour mon bébé. J'aurais jamais imaginé que je pourrais m'émerveiller devant chaque sourire, devant chaque mou, devant chaque rire. J'aurais jamais pu m'imaginer être prête à en découdre avec un ours pour protéger un petit être, pas si petit que ça maintenant, 8,7 kg. Puis, voilà, il y a les attentes que la société a, il y a aussi les attentes que j'avais envers moi-même. Être une bonne mère, être présente, allaiter longtemps, lire des livres pour éduquer son enfant, savoir exactement quoi faire. Alors, ce sont des problématiques inédites et que les gens autour de nous nous disent tout et son contraire. Être aussi une bonne épouse, être présente pour son mari. Et puis tenir la maison, que les sols soient nets, le linge plié, la vaisselle faite. Sans oublier d'être une bonne employée, bien sûr, bien travailler, s'investir, même quand on a eu 4 heures de sommeil coupées en 3. Puis être une femme qui prend soin d'elle. Il faut faire du sport, retrouver la ligne, prendre le temps de se faire belle, continuer à avoir une vie sociale. Alors parfois, je me sens une combattante. Je gère tout, sur tous les fronts. Je me sens bien. Je me lève la nuit avec le sourire. Je suis contente d'avoir un câlin supplémentaire avec mon bébé au milieu de la nuit. Et je prépare bébé le matin en souriant. Je lui donne son biberon chaud, alors que je vois mon thé qui refroidit une fois de plus. Une fois que mon mari est parti emmener bébé chez la nounou, je fais le sport à la maison. Puis j'attaque le boulot, j'enchaîne les réunions. La pause manger est pratique, on lance une machine, on range le linge. Sans oublier de prendre des nouvelles des gens autour de moi, des proches, de passer à la pharmacie pour prendre les vaccins pour la prochaine visite chez le pédiatre. Puis je cours avec joie chercher mon bébé le soir. Je suis douce en le nourrissant, alors que lui, il tombe de sommeil et puis il se fait les dents. Puis je suis heureuse de passer un moment avec mon mari, un temps de qualité le soir pendant le repas. Et je lis même ma Bible le soir, enfin pas très longtemps parce qu'après je tombe. Et puis parfois, parfois ça va plus, comme il y a à peu près 15 jours. Où la fatigue, ça emporte tout, quoi. C'est une grosse vague. Donc, ça emporte même le sourire du bébé, ça emporte même les mains tendues de mon mari. Je me demande si j'en suis capable. Je me demande si je pourrais pas faire mieux pour le bébé. Je me demande si les gens autour de moi ne méritent pas mieux. Puis je m'en veux de me plaindre. Ah, mon mari, il est investi. Puis j'ai qu'un enfant. Il y en a quand même plein. Puis on est bien entouré. Puis des fois, ça se transforme aussi en colère. Pourquoi mon employeur, il attend de moi que je travaille le soir? Pourquoi mon mari, il n'est pas ébahi devant mes 4 levées de la nuit? Pourquoi mon bébé, il recrache les petits pots faits maison où j'ai passé tout mon week-end dessus? Et pourquoi la famille ou les gens autour de nous, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire une petite remarque sur la façon dont on gère le bébé alors qu'on fait ce qu'on peut? Et donc c'est là, épuisée, déçue, triste, seule, amère, qu'il y a 15 jours, voilà, je n'étais pas du tout dans un temps de prière, mais Dieu, il m'a pris dans ses bras, il m'a fait un gros câlin. Il m'a dit que j'étais suffisante, il m'a dit que j'avais pas besoin d'être une héroïne. Il m'a dit qu'être moi, c'était déjà bien, Il m'a dit que lui, il m'aimait, que lui, qu'il sait que j'essaye de faire au mieux. Il m'a réconfortée. Je me suis vraiment sentie soulagée, un poids qui s'en va. Si Dieu me donne sa grâce, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas me la donner ? Ce tête-à-tête m'a permis aussi de me recentrer sur l'essentiel. C'est pas grave d'arrêter l'allaitement. C'est pas grave que les petits pots soient industriels. C'est pas grave si bébé remet un pull taché. C'est pas grave de ne pas être joyeuse en se levant pour la troisième fois de la nuit. C'est pas grave de la valeur indiquée sur la balance tant que je me sens bien. C'est pas grave si je prends pas de nouvelles des gens autour de moi tout de suite. C'est pas grave si on fait au feeling l'éducation de bébé tant qu'il est propre, nourri et heureux. S'il y a des taches sur le sol de la cuisine, si je délègue 2-3 taches au boulot. C'est pas grave. J'ai rien à prouver. Je n'ai pas à avoir un sans-faute sur les divers rôles que j'ai. Je suis assez. Je suis aimée. Ce qui est important, c'est maintenant, dans l'amour, avec beaucoup d'indulgence. Voilà, merci de votre écoute.
Je voulais juste voir si le micro marche. Mes défis sont différents que celles de Marie et Léa. Mes enfants sont plus grands maintenant. J'ai 4, de 18, 6 et 4. Et mes défis, je dirais, j'ai dû réaliser, parce qu'on est des missionnaires, on travaille les deux à la maison avec Jeunesse en Mission, et j'ai dû réaliser et me faire comprendre de nouveau que mon ministère et mon travail premier, c'est mes enfants. C'est le ministère le plus important que je peux avoir, que je peux faire, de vraiment juste les apprendre à connaître Dieu et le craindre et de respecter Dieu et en aimant les gens autour d'eux. Et ça, c'est un boulot juste immense que parfois je me sens presque incapable de le faire parce que avec les réseaux sociaux, on voit les gens, on voit les mamans qui font ça. D'autres mamans, elles font ci. Oh, elle fait des activités. Elle sort avec ses enfants. Elle fait des bricolages. Et moi, des bricolages. Je vous dis, moi, j'aime pas les bricolages. Alors, on se compare beaucoup. Et ce défi en tant que maman de vouloir faire le mieux pour leur enfant et de tous ces attentes parfois qu'on a des gens ou que moi, je sens que j'ai ou que les gens ont sur moi en tant que maman, ça devient parfois beaucoup. Mais dans tout ça, dans tous ces défis, en fait, les joies que j'ai de voir mes enfants rigoler ensemble, de vouloir jouer, de passer du temps ensemble, et ils ferment les portes et on ne les voit pas pendant 1 ou 2 heures, et on entend juste les rires au travers de la porte, pour moi, c'est ce baume pour mon âme que j'ai besoin de temps en temps, de juste savoir, en fait, c'est OK. Si je ne fais pas des bricolages, si je ne sors pas, si je ne fais pas tout ce que je vois mes amis faire, ou parfois même pas des amis sur Instagram et Facebook et autres, c'est OK. Mon boulot d'être maman, c'est différent parce que moi, je suis moi. Mes enfants, ce n'est pas les autres enfants de quelqu'un d'autre, ils sont les miens. Et moi, je sais, avec humble opinion, avec mon mari, on sait le mieux ce qu'ils ont besoin que de quelqu'un d'autre. Mais quand même, les défis, ça reste sur le fait qu'avec Internet et tout, parfois je vois mes enfants qui sortent et il y a déjà des copains à 8 ans qui ont un téléphone. Et je sais ce qui se passe à l'extérieur. Je sais tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, les enfants qui sont défiés dès le petit âge de... Je ne veux même pas les nommer. Mais j'ai peur. Pour être vraie, j'ai peur de savoir ce qui se passe, ce que peut arriver à mon enfant sans que moi je suis au courant et je ne peux rien faire. Je suis impuissante de ça. On essaie de parler à la maison, on essaie de les préparer, mais c'est là où je réalise de plus en plus et très régulièrement que je dois faire confiance à Dieu. C'est le seul truc que je peux faire. Je peux prier, je peux faire confiance à Dieu. Que ce que nous on fait à la maison, ce que nous on donne comme conseil et de préparer nos enfants, c'est la seule chose que je peux faire parce que c'est lui qui gère après. Et nous on est à la maison et moi je suis là au cas où qu'il y a quelque chose qui arrive. Et avec Thierry on fait le nettoyage après, dépendant de ce qui se passe, et de faire, voilà, comme j'ai dit, confiance que Dieu sait et que ce que je fais, c'est assez.
Je vais me mettre là, j'ai un petit papier. Je suis une grand-mère, mais j'ai été une maman. Je le suis encore et je le serai jusqu'au bout. J'ai eu le privilège d'élever mes enfants avant les réseaux sociaux. En plus de ça, en Afrique, où il y avait beaucoup moins de choses qui se passent. Mais j'ai toujours considéré que mes enfants m'étaient confiés par Dieu et que j'avais des responsabilités particulières pendant l'enfance et l'adolescence. Moi-même, j'ai eu une enfance un peu dure dans le travail et la discipline, très peu de manifestations de tendresse ou d'amour. Et j'ai eu envie de vivre tout à fait différemment avec mes propres enfants. J'avais pas à disposition les livres et tout ce qu'on peut trouver maintenant. Et pour cela, j'ai vraiment dû faire confiance à Dieu pour qu'il me guide, pour qu'il m'inspire. J'ai eu plein de moments de bonheur avec eux. Et tout ce que j'ai pu faire, que ce soit bricolage, parce que j'aimais faire les bricolages, ou lecture et tout ça, m'a apporté un baume au cœur. C'est un peu comme si j'ai revécu mon enfance. Il y a eu bien sûr tout plein de défis. Les longues absences de Roger, nos nombreux déménagements, changements d'école, changements de langue, des enfants à soutenir. Et là, j'ai souvent été confrontée à mes limites. Et je me suis souvent souvenue, Seigneur, c'est tes enfants. Tu me les as prêtés, prends soin d'eux. Là, je ne sais pas comment faire. Donne-moi la sagesse, donne-moi le discernement. Je n'avais non plus pas une maman à disposition ou une tante. On était vraiment assez seuls avec nos enfants. Cet amour inconditionnel de Dieu qui est souvent là en miroir devant moi. Et je me sens si petite pour exprimer cet amour. Alors la famille s'est agrandie, on a accueilli deux beaux fils et une belle fille. Mon rôle de maman aujourd'hui, c'est l'écoute, le soutien, l'encouragement et parfois les conseils. Mais ça s'arrête là. Ensuite, il me reste la prière. Parce que encore, je peux les confier au Père et lui les aime. Mieux que moi. Depuis bientôt 14 ans, je suis une mamie et j'aime entendre les enfants m'appeler par ce nom. Dans le préau de l'école, il y a même d'autres enfants qui m'appellent par ce nom. Nous avons 7 petits-enfants. Et maintenant, je dois dire « nous » parce que dans mon rôle de grand-parent, Roger m'accompagne à plein temps. Sinon, je ne sais pas si j'aurais les forces d'en avoir 3, 4 à la fois ou 2. Voilà, c'est une continuité dans la relation à des enfants, mais avec beaucoup moins de responsabilités. Pour les moments difficiles, on peut les rendre. Pour tout ce qui est de Internet, tout ça, les parents vont devoir gérer. Là encore, pour nous, il y a la prière. Alors, on a beaucoup de plaisir, de joie, de rire, Papy, tu joues à la bagarre avec nous, beaucoup de ça. Mais il y a aussi des défis, parce qu'on les a assez souvent, et la difficulté à obéir, ou leurs disputes, sont aussi des défis, parce qu'on aimerait vivre que les bons moments. Et je disais tout à l'heure, je me trouve face à l'amour inconditionnel de Dieu. Et moi, par rapport à quelques enfants, et le Seigneur, par rapport à l'univers, et lui qui aime, ça me donne toute une autre compréhension de cet amour large et haut et profond de Dieu. Ça me rend humble dans mes capacités. Et cette réflexion m'habite tous ces derniers temps, que ce soit par rapport à mes petits-enfants, que ce soit par rapport à mes voisins, à la famille élargie. Comment est-ce que j'aime? Et aussi parce qu'on fait, on participe à des camps avec les enfants, et c'est défiant aussi. S'aimer, c'est tellement important. Parce que c'est une mise en pratique de notre foi, c'est une manifestation de notre foi. Et il y a ce verset qui dit, c'est dans l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples ou quelque chose comme ça. Je sais que je peux aller puiser dans cet amour infini et que par son esprit, il peut me remplir et permettre que ça se déverse dans mon entourage. J'apprends. Voilà, j'apprends et j'ai envie de grandir dans ce domaine-là. Alors, allons puiser à la source.
Il y a deux jours, je voyais une de mes petites filles à qui je racontais mon souci de ce matin. Et elle m'a dit, « Grand-maman, tu dois dire la vérité. » La vérité n'est pas toujours facile à dire. À la vivre, il y a des choses qui sont difficiles. Mais ensuite, de devoir le dire, le témoigner, c'est pas, on aime bien quand les choses sont toutes lisses. Ils vont tout bien. Mais dans la vie, ce n'est pas toujours comme ça. Vous devez certainement le savoir. Grand-maman, depuis 25 ans, mon rôle de mère s'est quelque peu estompé. Mais je reste assurément une maman appréciée, respectée et aimée par mes deux grands-fils auxquels je suis attachée. Et je réalise avec bonheur qu'on reste maman toute la vie. Mes joies ont été de vivre plein de premières fois. Premier regard, premier sourire, premier pas, premier mot balbutié, imparfait, mais qui ouvre la porte à l'émerveillement. De les suivre ensuite dans leur développement au quotidien avec engagement, bienveillance et intérêt. Au départ, une maman souhaite pour sa progéniture un développement harmonieux. Parfois, les espoirs ne se concrétisent pas et le parcours dévie sur des chemins de traverse périlleux. Dans la pratique, j'ai compris qu'être maman, c'est une formation en cours d'emploi, un apprentissage de la vie au long cours. Pour mon premier fils, j'ai endossé l'habit de mère chef de famille très vite, à la suite d'un divorce malheureux. Responsabilité dans un cadre monoparental, faite de courage et de détermination, accompagnée par un petit garçon super chou qui m'a apporté bien des joies. 10 ans plus tard, après un remariage et l'arrivée d'un deuxième fils, Désiré, mon rôle s'est transformé au moment de son adolescence en celui de mère courage, de maman dans la tempête, pour un ado en crise qui a choisi l'alcool et puis la drogue pour échapper à ses difficultés. S'ensuit alors une période d'incompréhension, de confrontation et de désespérance. Le chemin de rédemption a été long et douloureux, mais victorieux. Au cri et au fond de ma détresse, j'ai découvert un Dieu proche, aimant et fidèle, sur lequel j'ai pu m'appuyer avec confiance, reprendre souffle dans sa présence, dans la lecture et les promesses de sa parole que je me suis appropriée résolument. Il me semble que parfois même, j'ai découvert avec vertige la longueur, la largeur et la hauteur de l'amour infini de Dieu à mon égard, mais aussi à l'égard de ma famille. Cadeau de la vie et de l'amour, mon rôle de maman s'est transformé en celui de grand-maman, de deux petites filles de mon fils aîné, devenues de jeunes femmes aujourd'hui, avec qui, à nouveau, il y a eu plein de premières fois à découvrir avec bonheur. Dieu reste ma source d'eau vive, mon ancre et ma voile. Dans les jours qui sont encore devant moi, avec une immense reconnaissance et humilité.
Marie-Léa, Rebecca, Mireille, Denise, mais encore vous toutes, mère ou pas, grand-mère déjà, ou peut-être est-ce à venir, deux mots, Eshet Shaïl, c'est de l'hébreu. Et pour que ça reste pas de l'hébreu, je vais le traduire rapidement, c'est facile à comprendre, femme de valeur. Eshet Shaïl, merci à vous toutes, femmes de valeur. Cher Seigneur, on se place devant toi pour recevoir aussi ce que tu as à nous dire ce dimanche matin, recevoir ce que nous avons entendu dans, ou exprimé par nos chants, recevoir ce que nos chères sœurs ont partagé, recevoir ce que tu tiens en réserve pour nous dans ta parole. Passe au milieu de nous, nous avons besoin de toi. Amen. Avez-vous envie de ressembler à votre mère? Avez-vous envie de ressembler à votre maman? Surtout pas, disons-nous certains d'entre nous. Puis en même temps, nous l'aimons. Ou nous l'avons aimée. Nous avons du respect pour elle, de l'admiration. Nous savons que notre mère n'a pas eu la vie facile, qu'elle s'est battue. Nous savons qu'elle a fait preuve d'abnégation, qu'elle a renoncé à quantité d'envies légitimes. Nous savons qu'elle s'est sacrifiée plus d'une fois. Nous savons qu'elle nous a communiqué tellement de bonnes choses. Et nous mesurons que nous sommes ce que nous sommes en bonne partie grâce à notre mère. Alors vous avez envie de lui ressembler ? Pas encore ? C'est que nous nous sommes construits dans sa dépendance tout en lui arrachant notre indépendance. Nous avons dû nous affirmer face à elle, parfois même contre elle. Un jour, nous ne voulions plus que notre mère nous couve, qu'elle nous dise de mettre un pull ou une écharpe ou une cagoule. Nous ne voulions plus qu'elle nous dise de ranger notre chambre, de faire nos devoirs, de nous moucher. Et le même jour, on était tellement contents de trouver dans notre placard des vêtements propres, de trouver de l'intérêt pour la journée que nous avions eue, et de trouver dans notre assiette un plat bien chaud, préparé avec amour. Nous sommes ce que nous sommes à cause de notre mère. Mais nous avons eu du mal à devenir adultes face à elle. Nous avons eu du mal à couper le cordon ombilical une deuxième fois. Notre mère, nous l'adorions. Puis nous avons découvert que notre idole avait des pieds en argile. Elle se fâche, elle panique, de temps en temps elle a le malheur de penser à elle d'abord, elle a un peu de mal à faire un créneau, elle est têtue comme c'est pas possible, puis elle n'est pas à la mode, puis elle n'y connaît rien aux jeux vidéo, elle n'y connaît rien aux réseaux sociaux, be real. C'est tout neuf. Et puis, devenus parents, ou au moins adultes, nous avons commencé à nous rendre compte qu'il n'est décidément pas facile d'être une mère. Nous sommes alors peut-être arrivés à dire avec ce proverbe, comprendre, c'est tout pardonner. La relation à la mère, c'est une relation intense, c'est une relation d'amour, de tendresse, de sécurité. C'est une relation qui engendre aussi la souffrance, parfois de la manipulation, de la domination, du conflit, du rejet. Alors je vous fais grâce ce matin d'un petit traité de psychologie amateur pour lequel de toute façon je serai incompétent. Mais il me semble que le message de la Bible nous concerne ici. À 4 reprises, nous y lisons par exemple « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Honore ton père et ta mère. Ce matin, je me demande alors si nous ne pourrions pas profiter de 3 exemples bibliques pour apprécier ce qu'est une mère, et permettez-moi, je le dis particulièrement aux hommes parmi nous ce matin. Être homme ou femme, être père ou mère, ce n'est pas la même chose. Et malgré tout ce qu'on entend, je ne crois pas que ce soit interchangeable. Pas vraiment. Mais la Bible contient de nombreux exemples qui ne correspondent pas aux caricatures de ce que nous disons être masculin ou féminin. Tenez, par exemple, le courage. Le courage, c'est un attribut des hommes ou des femmes ? Mais les deux, mon capitaine. Enseigner, passer le savoir, communiquer de la sagesse. Ben dans le livre des Proverbes, ce sont le père et la mère qui le font. Pas l'un des deux, les deux. Puis l'amour. Ben, hommes et femmes sont appelés à aimer. Hommes et femmes sont appelés à se donner. Sans doute que l'expression de toutes ces valeurs change d'une personne à l'autre, parfois d'un genre à l'autre. Mais le fond, il est pareil pour tous les humains. Mon premier exemple, c'est l'apôtre Paul quand il écrit à de tout nouveaux chrétiens de Thessalonique, des nouveaux-nés. Voici ce qu'il leur en dit, et c'est Marie-Léa qui va venir faire la lecture pour nous de 1 Thessaloniciens 2, 6 à 8.
Non, mais c'est pas grave. Pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse, comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. Ainsi, dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers.
Nous avons été pleins de tendresse, comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. Nous avons été comme une mère. C'est l'apôtre Paul qui le dit. On sait qu'il avait pour le moins un fort caractère. On sait que c'était un homme plutôt exceptionnel, qui avait un mandat direct de la part de Jésus-Christ, qui aurait eu la possibilité de se conduire avec autorité, avec paternalisme, il aurait pu. Mais ici, il dit qu'il a été plein de tendresse comme une mère. C'est étonnant, non ? Paul, qui dit qu'il a été plein de tendresse comme une mère. Lui qui a la réputation d'être un fonceur, un homme tellement exigeant avec lui et pour tout dire avec les autres, eh bien ici, il parle de tendresse. La tendresse, c'est une qualité qui semble maternelle à première vue. On l'a entendu dans les témoignages. Quand un petit garçon tombe de son vélo, qui c'est qui le console ? C'est la maman. Quand la fille de la famille donne à son tour la vie, qui est-ce qui l'accompagne dans ces moments exigeants ? C'est sa maman. Qui est-ce qui est attentif aux blessés de la vie en général ? Ben, c'est plutôt la mère. Alors, il y a des psys qui disent que la mère est pour l'enfant le pôle de la tendresse et de la douceur, et que le père est celui qui donne la loi, qui fixe le cadre, qui structure les choses, qui incarne l'autorité. Je ne vais pas me battre ni pour ça, ni contre ça. C'est plus ou moins inscrit en nous, en tout cas dans notre culture. Et pour nous qui portons la responsabilité d'une famille, je pense qu'on l'a déjà expérimenté. Mais le père doit aussi être capable de tendresse, comme Paul. Tendresse envers ses propres enfants, tendresse envers son prochain. Il ne l'exprimera certainement pas de la même manière qu'une mère. Mais si un père n'a pas un cœur tendre, il lui manque quelque chose. Un homme n'est pas pleinement un homme s'il n'a pas de la tendresse. Comment est-ce que cela s'est exprimé chez Paul quand il était à Thessalonique ? Ben dans ses émotions, dans ses sentiments, ces nouveaux chrétiens, nous dit-il, lui étaient devenus très chers. Il le dit, il n'a pas peur de le dire. Des liens d'affection forts le lient à ces chrétiens. Comment est-ce que cela s'est exprimé chez Paul quand il était à Thessalonique ? Ben dans ses émotions et ses sentiments. Mais aussi dans un dévouement extrême. Il aurait voulu leur donner sa propre vie. Il a pris sur lui de travailler dur pour n'être à la charge de personne. Il n'a pas lésiné sur les moyens pour les nourrir de la parole de Dieu. Il ne les a pas chouchoutés, il ne les a pas coucounés, il les a instruits. C'était un engagement très viril. mais pas d'une virilité de cinéma. Pas d'une virilité de salle de sport ou de stade de foot. Pas une virilité d'apparence. Pas une virilité qui montre les muscles ou la parole qui tranche dans le vif. La virilité de la tendresse d'une mère qui nourrit son petit. Et je trouve qu'il y a là de la beauté, de la grandeur, de la noblesse dans cette attitude de la tendresse. Mon deuxième exemple d'amour maternel, c'est celui de Jésus-Christ. Parce que Jésus est pour moi, et j'espère pour nous tous et toutes, l'exemple complet, parfait, de l'homme que je voudrais être. Quand je pense à celui que je voudrais être, je pense à Jésus. C'est lui mon exemple. Et j'en suis encore tellement loin. Parce qu'en lui est réunie la somme des qualités humaines que je voudrais incarner. C'est l'exemple parfait de l'homme parfait. Un chef qui veut servir, un homme qui sait renoncer à lui-même, fidèle en amitié, ferme devant la critique, véridique, sensible à la souffrance des autres, patient, prévoyant, pédagogue. Inébranlable sous les coups, intraitable avec la religiosité, mais plein de grâce envers ceux qui cherchent Dieu. Un homme, un vrai, pas un macho, pas un patriarche, mais un homme. Dans un récit évangélique, Jésus lui-même va jusqu'à se comparer à une mère. Matthieu 23, 37 à 39. Ah, Jérusalem, Jérusalem. Toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Et là, on sent tout l'amour de Jésus pour cette ville, Jérusalem, qui va bientôt le rejeter, contribuer à sa mise à mort. Il est triste parce qu'encore une fois, l'histoire se répète. Encore une fois, Jérusalem va tourner le dos à Dieu. Encore une fois, Jérusalem va envoyer sur les roses le messager du Seigneur. Encore une fois, Jérusalem va rater une occasion de changer de vie et de trouver le salut. C'est l'ultime occasion pour Jérusalem et elle va être ratée. Un autre passage en Luc 19 dit que Jésus pleure sur Jérusalem. Elle est à la croisée des chemins et elle va prendre la mauvaise direction. Elle va se fourvoyer. Jésus aurait tellement voulu faire comme une mère poule, dit-il. Il aurait voulu être une mère poule, rassembler ses poussins pour les protéger. Mais pour cela, il aurait fallu que les poussins soient consentants. Or, ils ne l'étaient pas. Voyez son souci du bien-être de ces gens, son souci de leur salut, son souci de leur unité qu'ils ne trouveraient qu'en lui. Alors je sais que la mère poule, elle n'a pas trop bonne presse. Je sais. Pourquoi donc ouvre-t-elle ses ailes? Pourquoi est-ce que les poussins accourent sous ses ailes? Parce qu'ils trouvent sous les ailes de leur mère une protection contre les prédateurs, ou contre la pluie, ou contre le soleil qui cogne. On dit même que quand certaines espèces sont rattrapées par des feux de forêt, la mère se sacrifie littéralement pour que les petits aient une chance de s'en sortir. Mesdames, mes sœurs, les mamans, combien de sacrifices ne faites-vous pas? Combien de concessions ne faites-vous pas dans un esprit de consécration, de don de vous? J'aime bien l'humoriste française Florence Foresti, qui en matière de maternité dit des choses assez pointues. Et une fois, elle parle dans un sketch des différentes exigences de la maternité, de la parentalité. Deux points, ouvrez les guillemets. Ben nous, parc, course, vaisselle et lessive, ça parle de nous. Alors que vous, les hommes, vous seriez plutôt équipés du gène, ça m'ennuie, alors je ne vais pas le faire. Alors que pour nous, le gène serait plutôt, ben, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Je crois que la mère poule, la mère qui se donne, elle est injustement calomniée, rabaissée et méprisée. Parce qu'elle se donne. Elle se met en première ligne pour la défense de ses petits. Elle est dans une logique de sacrifice qui nous est encore bien trop souvent étrangère à nous les hommes, mais que pourtant incarnait l'homme à la perfection, Jésus. Se sacrifier. Alors bien sûr, l'expression française, elle est plutôt négative. C'est parce qu'il peut y avoir quelque chose de pervers dans le sacrifice, y compris dans le sacrifice d'une mère. Une mère peut aimer pour être aimée, ce qui est une forme de manipulation. Elle peut s'efforcer par tous les moyens de s'attacher l'enfant ou le mari parce qu'elle a un besoin criant d'affection. On peut aimer pour posséder. On peut aimer pour satisfaire ses propres attentes. On peut aimer par intérêt. On peut aimer comme si les autres étaient des objets destinés à nous faire plaisir, à nous valoriser. Si ça, c'est notre amour, alors on nous fuira pour être libres. Et Jésus n'a pas aimé comme ça. Il n'y avait pas de manque en lui qui réclamait d'être comblé. Il a aimé d'une façon désintéressée, unilatérale, sans concession. Le feu de forêt est passé sur lui pour que nous ayons la vie sauve. Alors messieurs, mes frères, si Jésus a pris tellement à cœur les intérêts des habitants de la ville de Jérusalem, je crois que nous avons nous aussi à sortir de notre égoïsme naturel pour penser aux autres et premièrement à nos enfants. Leur bien-être, leur sécurité, leur épanouissement, leur salut. Je sais que ce sera parfois en pure perte. On peut refuser notre main tendue comme on a refusé l'amour du Christ. Mais notre responsabilité, c'est d'aimer et de le montrer de manière très concrète. Et avant de conclure, mon troisième et dernier exemple, il se trouve en Ésaïe pour parler de l'amour de Dieu. Et au chapitre 66, Ésaïe évoque l'amour de Dieu comme celui d'une mère. C'est Dieu qui parle à son peuple. Comme un enfant que sa mère console, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Une image qui revient au psaume 131. Je me sentais comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère, comme un nourrisson apaisé près de toi, ô Éternel. Celui ou celle qui, comme nous l'avons entendu dans les témoignages, met son espérance en Dieu, qui se réfugie en Dieu, qui se confie en Dieu, trouve celui qui accueille et console. Il se trouve être, et l'expression a été dite, comme un enfant dans les bras de sa mère. Je sais que ce n'est pas le portrait habituel que l'on fait de Dieu. Dieu le créateur, Dieu le juge, Dieu le roc, Dieu le vaillant guerrier, Dieu le père. On peut même dire que c'est assez exceptionnel dans la Bible de parler de Dieu comme ça, une mère qui console. Mais la Bible, elle est inspirée ou elle ne l'est pas. Et moi, je fais le choix de dire qu'elle l'est. Cette image inhabituelle, elle est légitime, elle est révélatrice de la plénitude de l'amour de Dieu, de sa grâce, de sa tendresse incomparable. L'amour d'un père terrestre ou d'une mère terrestre ne dira jamais complètement l'amour du Père céleste. Cet amour du Père céleste, il est riche, il est complet, il est dense. Il a des facettes que nous pouvons associer tant à un père qu'à une mère. Je conclus. Quelle leçon je tire moi de ces quelques constats? Eh bien, d'abord, deux réflexions pour celles d'entre vous qui sont mères ou qui vont l'être. L'amour d'une mère, ce n'est pas que la tendresse. Il y a aussi de la fermeté dans tous les exemples que j'ai cités. Il y a aussi des attentes fortes, c'est légitime. Et puis l'amour d'une mère n'est pas égoïste. Il ne transforme pas l'enfant en jouet pour grande personne. Il donne, il se donne pour le bien de l'enfant, mais ça vous le savez. Et deux réflexions pour ceux d'entre nous qui sommes pères ou qui vont l'être. La mère de nos enfants, elle a besoin d'être soutenue. Elle a besoin d'être valorisée. Les femmes ont besoin d'être soutenues et valorisées par les hommes. Ou en tout cas, jamais, jamais dénigrées. Parce qu'être mère, être femme, c'est exigeant et c'est noble. C'est digne d'encouragement, de remerciement et de tous les petits engagements ou grands engagements qui vont avec. Puis le père que nous sommes doit savoir exprimer sa tendresse envers ses enfants. Si nous ne le faisons pas, il nous manque quelque chose. Et pour finir, une réflexion pour nous tous qui avons une mère, toute imparfaite qu'elle est, elle mérite notre respect et notre amour. Amen.
Merci Philippe. Alors là, nous voulons vivre un temps de prière maintenant. Un temps de prière où nous pourrons répondre à ce message, répondre à ce que nous avons entendu. C'est aussi un temps de reconnaissance, où on peut exprimer notre reconnaissance, que ce soit pour notre maman ou pour les mamans autour de nous, pour Dieu qui est notre Père, notre Mère et qui prend tellement bien soin de nous. Et aussi un moment d'intercession. Peut-être que dans votre vie ou dans la vie de ceux qui vous entourent, il y a des situations difficiles. Certainement, vous en connaissez. Voilà, soyez sensibles au fait de nommer des gens. Peut-être que vous pouvez garder cette information pour vous. Mais priez aussi pour ces mamans autour de vous qui sont dans des temps difficiles pour que Dieu les soutienne, pour que Dieu les relève. Si vous êtes à l'aise avec cela, vous pouvez lever la main et puis j'apporterai le micro pour que ceux qui sont chez eux puissent vous entendre. Mais voilà, si vous voulez prier et que vous n'êtes pas à l'aise avec le micro, sentez-vous vraiment libre aussi de prier simplement.
Simplement que tu combles de grâce chaque femme, chaque mère dans sa situation particulière. Et Seigneur, j'ose prier ce matin pour des mamans qui sont dans des pays où il y a des guerres. Ouais. Et ces mamans ne savent pas quoi faire. Et parmi ces mamans, il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes, il y a aussi des non-chrétiennes. Alors, une prière courte qui s'impose, c'est que ton nom soit sanctifié. Amen. Et que ton règne vienne, Seigneur. Mm-hmm. Et que ta volonté soit faite. Mm-hmm. Et je conclue ma prière en te disant merci parce que tu es le maître du monde, tu sais bien faire et tu conduiras tout pour qu'un jour nous puissions te glorifier. Et béni soit le nom de Jésus-Christ, qui est le maître parfait. Alors, bénis les mamans dans cette paroisse, bénis les mamans dans le canton de Genève, en Suisse et dans le monde, en particulier dans les pays en guerre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Père, c'est avec beaucoup de reconnaissance, Seigneur Jésus, à nos sœurs, qu'elles soient vraiment venues, Seigneur Jésus, mais c'est avec beaucoup de reconnaissance, Seigneur, qu'elles sont avec nous, qu'elles, par leurs êtres, par leurs, pas forcément ce qu'elles font, mais ce qu'elles sont. Et Seigneur Jésus, c'est une grâce que tu as faite à l'homme, entre guillemets, de pouvoir accueillir cette personne, Seigneur, et cette richesse que tu as mis à côté de nous. Alors, Seigneur, sois béni, Seigneur, et béni toutes les mamans et toutes les femmes aujourd'hui, Seigneur, mais aussi pour le temps qui est le temps. Amen.
Amen.
Ouais, Seigneur, je te remercie pour toutes les capacités qu'ont nos mamans. On reconnaît pas assez la polyvalence qu'elles ont, les différentes possibilités qu'elles nous offrent. Et vraiment, je trouve ça vraiment précieux le fait qu'on puisse toujours avoir cette possibilité de parler avec elles, qu'elles nous transmettent des choses et qu'on puisse leur transmettre aussi, et puis qu'elles nous fassent grandir et qu'on puisse les faire grandir aussi, Seigneur. Je te remercie encore pour cette bénédiction que tu nous donnes au quotidien. Donc, Jésus. Amen.
Amen.
Merci, Père éternel, parce que dans ta parole, tu as promis, je ramènerai le cœur des pères vers les enfants, afin de préparer un chemin pour le Seigneur. Seigneur, merci pour cette promesse. Et qu'elle s'accomplisse. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.
Je prie pour vous, si vous êtes comme Ève, témoin d'une sérieuse rivalité entre vos enfants. Je prie pour vous, si vous êtes comme Tamar, aux prises avec la stérilité ou une fausse couche. Je prie pour vous, si comme Rachel, vous comptez les femmes de votre famille et de vos amis qui, année après année et mois après mois, tombent enceintes tandis que vous attendez. Je prie pour vous si vous êtes comme Naomi et que vous avez connu l'amertume de la mort d'un enfant. Je prie pour vous si vous êtes comme Joseph et Benjamin et que votre mère est morte. Je prie pour toi si ta relation avec ta mère a été marquée par des traumatismes, des abus ou des abandons, ou si elle n'a tout simplement pas pu t'élever comme tu en avais besoin. Je prie pour toi si tu as été comme la mère de Moïse et que tu as fait adopter un enfant, faisant confiance à une autre famille pour l'aimer jusqu'à l'âge adulte. Je prie pour vous si vous avez été comme la fille de Pharaon, appelée à aimer des enfants qui ne sont pas les vôtres par la naissance. Je prie pour vous si, comme beaucoup, vous regardez ou avez regardé votre mère vieillir et disparaître dans le long adieu de la démence. Je prie pour vous si, comme Marie, vous êtes enceinte pour la toute première fois et attendez avec impatience le miracle de votre premier enfant. Je prie pour vous si vos enfants se sont détournés de vous, fermant douloureusement la porte à toute relation, vous laissant avec votre cœur brisé entre les mains, et que comme Agar, vous êtes maintenant seul. Je prie pour vous qui, comme la mère et la grand-mère de Timothée, enseignent régulièrement et sans fanfare ni reconnaissance les vérités de Dieu à vos enfants, semant ainsi des graines pour l'éternité. Je prie pour vous si la maternité est à la fois votre plus grande joie et votre plus grande difficulté. Je prie pour vous si vous voyez votre enfant lutter contre la toxicomanie, une situation juridique inextricable, une maladie mentale ou toute autre situation que vous ne pouvez que regarder se dérouler sans réelle prise dessus. Je prie pour vous si, comme tant d'autres femmes avant vous, vous ne souhaitez pas être mère, si vous n'êtes pas marié, ou si de bien d'autres façons vous ne correspondez pas aux normes de la société. Je prie pour vous, si vous vous reconnaissez dans toutes ces histoires ou dans aucune d'entre elles. En ce jour de fête des mères, où que vous soyez, qui que vous soyez, nous marchons avec vous. Vous êtes parmi nous. Vous comptez. Vous êtes aimé. On vous voit. Vous avez de la place. Vous êtes digne. Vous avez une valeur infinie. Eshet Shail. Et puissiez-vous connaître l'amour profond et sans fin de notre grand et beau Dieu, qui est le meilleur exemple de parent que nous connaissions. Vous êtes gravés dans les paumes de Dieu, à la fois visibles et invisibles, mais maintenus ensemble par lui. Que sa bénédiction repose sur vous. Amen.
Amen. Merci Philippe. Voilà, on va bientôt arriver au terme de ce culte, mais nous avons encore deux annonces spéciales, deux annonces festives. Et pour la première, j'aimerais inviter Alex et Marie à me rejoindre. Alors, ceux qui les connaissent un petit peu, vous doutez un peu de ce qu'ils vont annoncer.
Bonjour tout le monde. Donc, je suis Marie Parnigoni, la fille de Francine et Claude Parnigoni. Et voici Alex Cookman, mon fiancé. Du coup, on voulait vous annoncer notre mariage le 17 juin. Donc, vous êtes tous cordialement invités. Et ce sera 17 juin à 14h.
Ici.
Ici. Donc, si vous pensez venir, merci de nous le dire. Sinon, si vous ne savez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez quand même venir à la dernière minute.
Voilà. Bon, on se réjouit. Et puis, Johan, je te laisse faire la deuxième annonce.
Est-ce que vous savez ce que c'est? Ouais, on appelle ça une platine. Je trouvais intéressant de vous le montrer. Alors, ce n'est pas pour chercher à vendre quelque chose. Mais des fois, on parle de platine. Alors, on les dit d'argent, de coton, d'or ou de platine. Je parle bien sûr des noces. Ah, j'ai pas compris pourquoi on parle de noces de platine avec cet objet. Bon, avant que je passe pour un imbécile, On parle bien du métal, le platine, qui résiste à la corrosion. Et on dit noces de platine pour ceux qui atteignent 70 ans de mariage. Et c'est rare, mais c'est beau. Et donc, Armand et Heidi Heiniger ont eu 70 ans de mariage cette semaine, sauf erreur. C'est un beau témoignage et je pense qu'avec les témoignages qu'on a eus ce matin, on pourra aussi une fois faire pour les couples parce que la vie n'est pas toujours toute rose et même si c'est honorable 70 ans, on sait tout ce qu'on peut vivre dans un couple et je trouve que c'est un témoignage qui permet aussi de se ressourcer et de se dire que ce que vous avez vécu 70 ans, c'est aussi le témoignage d'une foi qu'on peut voir, même si moi je ne vous ai pas connu depuis plus de 70 ans, mais je trouve que c'est très encourageant et qu'on peut tous être admiratifs devant cette foi, cette fidélité, et que certainement que c'est grâce à Dieu et regarder à Jésus-Christ qu'on peut traverser 70 ans de cette manière-là. Donc encore un grand merci pour ce témoignage au milieu de nous.
Nous voulons prier pour Armand et Heidi. C'est vrai, Seigneur, nous te disons notre reconnaissance pour ta bonté dans la vie d'Armand et Heidi. Malgré les épreuves de la vie, tu as été sans aucun doute possible et tu es leur ciment. Nous voulons les recommander à ta grâce, te demander de les visiter, de leur faire du bien, de les fortifier, de les garder dans ta paix. Encore ensemble, jusqu'au jour où tu auras décidé de les rappeler à toi. Alors nous les recommandons. Dans la joie, dans la reconnaissance, nous voulons aussi nous nourrir de leur exemple et nous souvenir de ta bonté dans leur vie. Que ton nom soit béni. Amen.
Voilà, si jamais moi je vote aussi pour les témoignages. Voilà, je vais prier pour terminer. Cher Seigneur, merci pour ton amour qui est tellement grand, tellement parfait pour nous, ton amour de père, de mère, de parent. Tu prends bien soin de nous, Seigneur, et il paraît parfois inatteignable pour nous qui sommes tellement humains, mais il nous donne une direction à suivre et nous avons tellement à apprendre de toi. Et Seigneur, durant cette semaine, que tu puisses nous aider, nous inspirer par ton esprit à aimer ceux qui sont dans notre famille premièrement, dans notre voisinage, nos collègues, tous ceux qui nous entourent, Seigneur. Que nous soyons portés par ton amour dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous faisons. Sois avec nous et bénis chacun d'entre nous. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.